Bonjour à tous.
Bonjour les gens qui nous regardent. Je ne sais même pas si on est à la télé, en fait, on est peut-être enregistré. Je m'appelle David Catu, je travaille pour Microsoft, je suis programme manager sur HTML5 et je suis accompagné de...
David Rousset, je suis évangéliste technique sur le jeu vidéo et tout ce qui est HTML5.
Et là, pour le coup, on a notre assistant qui est en stage de troisième,
Ouais.
Éric Vernier, qui
Qui est
découvre
lui?
un peu le... Alors, il a une maladie, en fait, on dirait qu'il est vieux, mais en fait, il est tout jeune. Nos deux Twitter, @deltacoche et @davrous, n'hésitez pas.
Eric n'en a pas,
Non,
c'est une époque qu'il ne connaît pas encore.
il est encore sous contrôle parental, il aura ça quand il aura 18 ans. Alors, voilà, il y a un système d'évaluation, donc on se compare à la quéquette après entre speakers, donc allez-y, hein, mettez-nous des grosses notes. En plus, vous pouvez gagner des superbes lots. Alors, mon cher David, qu'est-ce que nous allons donc parler de quoi aujourd'hui?
Oula.
Eh bien, nous allons parler en fait de 3D et plus précisément de l'utilisation de notre framework pour faire des jeux 3D ou des applications orientées 3D. En fait, on a découpé cette session en trois grosses parties. Une partie introduction pour remettre les bases, qu'on soit tous d'accord. David vous fera après plusieurs démonstrations techniques sur les fonctionnalités plus ou moins avancées que l'on en a à Babylone. Et à la fin, je vous ferai une session de live coding de 20 minutes. Donc, normalement, ça va tout planter. Hein. C'est la journée, il n'y a pas un truc qui va compiler. Donc, on se marrera tous ensemble de mes erreurs diverses et variées. Pas mal.
C'est bien comme teasing.
Voici bien. Alors, David.
Alors, au début, il y avait des dinosaures, mais ça, c'est il y a très très très
Puis, ils sont
longtemps.
tous tombés malades.
Ils sont tombés malades. Et ensuite, il y a eu la 3D et les têtes de singes. Pourquoi les têtes de singes?
Alors, pourquoi oui?
Alors, la 3D, si vous... moi j'étais vraiment très nul en 3D pendant longtemps. Alors, c'est une espèce de coming out que je fais aujourd'hui. Vous avez tous eu ça dans vos études, école d'ingé, ou même si vous n'avez pas fait d'école d'ingé, le relou qui code en assembleur et qui discute avec le GPU et qui fait tourner des trucs en 3D, où vous êtes encore à comprendre comment je fais un bubble sort. Déjà, j'étais en déprime. Et quelques années plus tard, j'ai rencontré Maître Catu qui m'a dit, mais c'est tout simple, la première étape, c'est de faire du calcul matriciel. J'ai dit, oh merde. Il me dit, mais j'ai écrit une librairie où, en gros, tu lui dis, tourne de 90 degrés sur l'axe Y et tout, je m'occupe de tout. Bon, bah, ok. Et par contre, tout est basé sur des triangles, comme on peut le voir là. Donc, la première étape, qu'on appelle souvent rendu en fil de fer, pour pouvoir faire passer l'environnement 3D qui vit finalement, dans la mémoire de votre ordinateur vers votre écran désespérément plat, sauf si vous avez des lunettes, mais c'est souvent plat. C'est la transformation de cet univers 3D vers la 2D par système de projection, et on va transformer ça avec des petits triangles qu'on dessine, qui est la primitive géométrique la plus simple en 2D. Il y a le carré au-dessus. D'ailleurs, il y a eu des tentatives à un moment donné de
Oui.
dessiner avec des carrés. Et finalement, on est revenu sur les triangles, les fameux polygones. Vous savez, vos cartes GTX en SLI qui vous ont coûté une blinde en disant oh, je te défonce de 2 FPS.
200 millions de polygones
ouais.
secondes.
Voilà. Donc voilà, c'est ça, les fameux polygones. Donc ça, c'est la partie wireframe. Ensuite, il faut dessiner ces fameux polygones. Ça s'appelle la rasterisation. Donc là, pour l'instant, j'ai mis une couleur arbitraire. Donc ça donne n'importe quoi. Il n'y a pas encore la gestion de l'éclairage. Ensuite, il y a des algorithmes d'éclairage et de gestion des ombres. Donc là, on voit le Gouraud Shading, qui est un algo français. Et ça a l'air compliqué tout ça, mais moi j'ai fait une série de tutoriels sur mon blog, Moment Pub, où vous pouvez faire un moteur, donc ce qu'on appelle software, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas le GPU, pour tout rendre sur le CPU. Et je l'ai fait en JavaScript, TypeScript ou C Sharp. Comme ça, là, je pense qu'on couvre à peu près toute la salle. Et à la fin, on fait un système de texture pour rendre un petit peu plus réel nos objets. Donc ça. Sans les GPU,
oui.
la petite tête de Suzanne, là, si vous allez sur mon blog, en gros, même sur vos super cœurs 4 corps, etc., overclockés dans de l'azote liquide, ça le fait fondre et ça tourne à 30 images secondes. Voilà, grosse déception. Donc il fallait aller plus loin, utiliser un processeur nettement plus efficace pour faire que ça. Et donc, c'est nos fameux GPU, la course à l'armement. Qui a connu 3DFX? Ah ouais, autant que ça. Ah ouais. Bon, bah, c'est le début de la course à l'armement. On a revendu femmes et enfants pour s'acheter des cartes graphiques. Et donc, ça nous permet ensuite, dans le monde du web, d'avoir d'abord le canvas 2D accéléré, les animations CSS. Souvent, on dit qu'il faut privilégier les animations en CSS parce qu'elles sont matériellement accélérées. Tout simplement que dans le navigateur, en fait, on a du code natif qui va discuter avec le GPU plutôt que faire une animation avec jQuery, par exemple, même si maintenant, souvent, jQuery fallback sur du CSS. On a le décodage matériel de tout ce qui est H264. C'est pareil, ça consomme énormément de ressources sur un CPU. Il vaut mieux l'offloader sur un GPU, même des JPEG dans IE.
Ça, c'est une
hein?
nouveauté.
Nous, on a un truc que les autres n'ont pas, c'est l'extraction matérielle du décoding JPEG. Je suis sûr que vous avez tous reswitché sur IE, normalement, grâce à ça. Et on a, depuis IE 11, l'accélération matérielle de via WebGL. C'est beau.
Alors, petite enquête. Qui utilise IE11 comme navigateur par défaut? Ah non, si, ça me fait plaisir. Là, tous qui ont lavé la main, vous rentrez direct tout à l'heure. Qui utilise Chrome?
Ouais.
Ils font chier, c'est con. Alors, mon cher David, de quoi on a besoin pour faire de la 3D accélérée, finalement?
Eh ben alors, d'un navigateur dit moderne. Donc, chez nous, ça s'appelle IE11. Chrome, ça fait un petit moment. Firefox Opera, hein, qui s'appelle aussi Chrome 2 reskiné. Donc, on a la nécessité de récupérer le contexte WebGL. Donc, si vous avez fait du Canvas 2D, vous avez fait un GetContext 2D, normalement, en vous disant... j'imagine que la prochaine étape, c'est GetContext 3D.
Ben non.
Eh ben non. C'est WebGL ou, plus difficile, expérimental-WebGL. Alors ça veut dire aux petits développeurs, ok, tu te lances dans l'aventure des grands, tu veux faire de la 3D, tu mets ça en prod, si ça pète, c'est de ta faute. Voilà. Ouais, ils ont créé un mot pour
c'est,
ça, les
c'est
anglais.
C'est un mot plus court, finalement.
C'est un mot expérimental.
Très bien. Et donc, en fait, quand on va vouloir faire du WebGL, le problématique à laquelle on va se confronter, c'est qu'on parle au GPU, et le GPU, c'est un peu Rayman. Il compte super vite les allumettes, mais on ne va pas avoir des gros discours avec lui. En fait. Elle marche bien, cette image. On va tu la notes, on la garde. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'il est hyper bourrin, mais du coup, il faut vraiment tout lui expliquer. Donc, c'est très, très bas niveau. Il ne faut pas s'attendre à lui dire « dessine-moi un mouton en 3D », si vous voulez. Il n'y a pas de dropship 3D, ça, c'est pas possible. Il va falloir s'occuper des shaders. Alors, le shader, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est le bout de code que l'on va exécuter sur le GPU. Okay, parce qu'il ne parle pas JavaScript ou C#, pour le problème, il est là. Il parle vraiment un langage spécifique au rendu à l'écran qu'on appelle le shader. Il va falloir lui expliquer la géométrie. Je vous rappelle qu'il ne sait faire qu'une seule chose, le GPU, c'est dessiner très vite des triangles. Donc quand vous allez faire la ville de New York en 3D, en fait, c'est plein de triangles, mais il va falloir que vous vous occupiez de tout. Les gestions des textures et des ressources, c'est pareil. Pour lui, ce ne sont que des ressources mémoire que vous allez devoir indexer. Donc quand on va faire du WebGL, en fait, on se retrouve à devoir utiliser énormément de code très 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 verbeux pour justement au final se faire tourner un petit triangle en 3D. Et une des problématiques qu'a rencontré WebGL depuis son existence, nous on l'a supporté assez récemment, mais il existe depuis très longtemps, notamment dans Chrome, c'est que beaucoup de gens abandonnaient parce que le choc thermique qu'on avait à passer de JavaScript, qui est plutôt super simple, à WebGL, il y avait un problème, ça faisait des dissociations et les gens mouraient. Donc, ce qu'on s'est dit avec David, on va sauver la planète, enfin une partie, et on va créer un framework qui va être plutôt orienté gaming, avec des fonctionnalités vraiment pour faire du jeu vidéo ou du serious gaming, afin de vous permettre de faire des applications pour le web. Alors, c'est open source, c'est une initiative personnelle, donc ce n'est pas Microsoft qui a financé quoi que ce soit. C'est offert et ouvert à tout le monde, on se fait un plaisir de fonctionner aussi bien sur IE11 que sur Chrome, Firefox, les petits navigateurs, tout le monde est bienvenu. Et ça vous permet, et ça c'est la petite cerise sur le gâteau, David en parlera tout à l'heure, également de faire des applications Windows 8.1 avec JavaScript.
Alors, avant toute chose,
oui.
Vous connaissez certainement, j'imagine, FreeJS. Qui connaît FreeJS dans la salle? Ou TriJS, des fois les gens ils disent en France.
Ah oui, du coup c'est pas le même. Ouais. Ah oui.
Alors c'est un autre framework qui existe depuis longtemps. Nous, on nous dit souvent pourquoi vous avez fait votre propre framework. Alors notre première réponse c'était parce que on a envie de se faire plaisir. Puis ensuite on a creusé un peu. En fait, on s'est aperçu que notre moteur est vraiment orienté ce qu'on appelle SceneGraph, beaucoup plus jeu vidéo. On a un moteur de shader fait par Mr. Catu. Ça fait 20 ans qu'il fait des moteurs 3D, donc on a toute l'expérience de David Catu dans le moteur 3D. Et en termes de perf, souvent on s'aperçoit qu'on est pas mal hein, par rapport à FreeJS. Mais on ne peut pas le dire nous, parce que sinon ça va partir en troll. Donc faites les tests, et si jamais on est meilleur, vous en parlez, sinon ça
reste en troll. Ou vous nous envoyez un mail.
Alors comment ça marche? Donc c'est sur GitHub, vous pouvez télécharger le projet avec tous les scènes de démo qu'on a mis dessus. Et ensuite, c'est du JavaScript, hein, donc vous référencez la librairie dans votre page HTML que vous hébergez sur votre serveur préféré, Apache ou IIS. Et la première étape, en fait, comme tu nous le disais, WebGL, il faut faire plein de choses pour discuter avec la carte graphique, initialiser plein de contextes et tout. David l'a résolu par newbabylon.engine avec le canvas que vous avez passé, et true, c'est pour l'anti-aliasing ou pas. Aussi simple que ça. Alors l'étape d'après, c'est que, effectivement, il faut se mettre dans le cadre d'un réalisateur, en fait. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut travailler avec des designers 3D. Alors, vous, développeurs, déjà, en 2D, souvent, on fait des interfaces moches. Hein. Il faut qu'on admette ça. Hein. Et donc, si on vous donne en plus une troisième dimension, ça devient vraiment n'importe quoi. Moi, j'ai fait le test, pareil.
T'as perdu beaucoup d'amis.
Il faut quand même comprendre comment ça fonctionne. et il faut vous acheter ou louer un designer. Alors, fort heureusement, il coûte moins cher que nous, donc on arrive à s'en sortir pour l'instant, mais j'imagine qu'ils vont finir par prendre le pouvoir. Et la première étape, c'est une fois que j'ai créé mon moteur 3D, je vais créer une scène. Alors, une scène, on peut avoir plusieurs scènes finalement. La scène, ça va être le lieu où vous, en tant que réalisateur, si vous voulez, vous allez placer une caméra, un éclairage comme ce projecteur, et puis un ensemble d'objets que vous allez positionner dans un environnement 3D. Et une fois que vous avez fait ça, donc là, on voit cette suite de lignes. Donc, il y a plusieurs types de caméras. Il y a une caméra qui est totalement libre, une caméra qui tourne autour d'un axe sur une sphère. On a une caméra qui tourne avec l'accéléromètre, puisqu'on peut l'avoir en JavaScript. Et on en a créé d'autres qu'on va vous montrer tout à l'heure. Une fois que vous avez fait ça, le principe d'un jeu vidéo ou même d'un moteur 3D, c'est qu'on va avoir une render loop. C'est-à-dire qu'on va essayer de vous appeler le plus fréquemment possible. Le Graal étant le fameux 60 FPS, donc les 16 millisecondes. Alors, ça ne sert à rien de dire moi, j'ai 200 FPS. De toute façon, votre écran, il en affiche 60. Mais apparemment, ça fait kiffer certains. Donc, en tout cas, nous, on s'arrête à 60 FPS. Alors, on a mis pas mal de trucs dedans.
Et alors, une des premières qu'on a mis, qui est extrêmement importante quand on va faire un jeu, c'est le moteur de collision. Mine de rien, c'est une grosse partie de maths qui va vous permettre de vous déplacer, de ne pas rentrer dans les murs, de monter les escaliers, etc. Et du coup, en deux clics, et d'ailleurs, tu feras la démonstration tout à l'heure, on se retrouve à faire un jeu, on se déplace, et du coup, ça a une vraie interaction. On a rajouté un moteur physique. Alors, le moteur physique, c'est CanonJS, pour ceux qui connaissent. C'est un portage de belette, qui est lui-même un portage de hameau. Ouais, on s'en branle, enfin, un moteur 3D, un moteur physique, qui est donc interfacé avec le moteur 3D, ce qui fait que vous allez pouvoir prendre vos objets, les jeter. Ils vont avoir une interaction entre eux, comme on a vu apparaître avec Half-Life 2 à l'époque. On a vraiment une simulation. Et là, ça devient extrêmement intéressant pour l'utilisateur, parce que c'est extrêmement réaliste. David a ajouté le support offline.
Oui, alors moi j'ai une connexion dite moisie à la maison, parce que comme j'ai pas le moyen de m'acheter un appartement de Bourges à Paris, j'habite en campagne, et avec, il y a souvent une connexion 2 mégas ADSL, et du coup quand vous vous connectez pour télécharger la scène, vous mangez 70-100 mégas, comme si vous téléchargez un jeu en fait. Et vous n'avez pas envie de laisser le navigateur dégager le cache, ce genre de choses. Et je me suis dit, le problème de l'offline HTML5, c'est qu'il est tout ou rien. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est-à-dire que vous avez un manifeste et soit il met à jour tout, soit il met à jour rien du tout. Alors j'ai créé un provider IndexedDB, du coup, qui va télécharger les assets dans IndexedDB pour vous, en menant juste un petit manifeste en disant, bah, télécharge-moi les assets, que ce soit les textures ou la scène. Comme ça, la prochaine fois, il va les charger du disque directement et ça trace pas mal.
Et ça, en plus, on a associé ça à un système d'optimisation réseau qui fait que vous pouvez, imaginons, vous faites une ville et vous avez envie de ne pas tout charger parce que ça représente peut-être 3 gigas plutôt de données. On a un système d'optimisation réseau qui fait qu'on calcule ce que voit la caméra, on charge ça et au fur et à mesure qu'on avance, on charge la suite.
Bon, ça, c'est un éditeur de jeu qui nous avait demandé de mettre ça en place.
Alors, du coup, le pipeline de création, c'est un peu le suivant. Si vous êtes dans Blender, on a un exportateur directement d'un Blender qui va générer un fichier JSON qu'on a appelé .babylon, donc c'est vraiment une description de votre scène. Quand on dit scène, c'est les caméras, les lumières, etc., avec toutes les informations nécessaires. On a le support des FBX et des OBJ depuis 3D Studio Max, j'ai vu tout à l'heure des mains se lever là-dessus. Depuis Maya, même histoire, on peut supporter les FBX et l'OBJ. On est en train de travailler avec un membre de notre communauté pour faire l'importateur direct FBX vers Babylon et l'exportateur avec du Max Script depuis 3D Studio Max vers du Babylon directement dans l'interface. À partir de là, soit vous êtes dans votre projet Visual Studio et vous reprenez votre asset, sinon David va nous faire tout à l'heure une démonstration de la Sandbox qui est un site web où vous avez juste à glisser, déposer grâce à HTML5 drag and drop le fichier .babylon et on va vous charger la scène. Vous n'avez même pas à vous embêter à monter un serveur ou quoi que ce soit. Voilà. Très pratique pour vos amis designers, comme ça ils peuvent voir ce que ça donne comme résultat.
Et même certains développeurs qui nous saoulaient, qui n'arrivaient pas à charger les scènes, et au moment on passait tellement de temps en support qu'on a préféré créer une sandbox pour que les gens testent rapidement si ça marche.
Alors, donc là on va partir sur un premier set de démonstration par David. À toi de jouer.
Donc la première étape, ce que je vais vous montrer au début, c'est comment utiliser notre moteur 3D sans une ligne de code. Bon, ça m'arrange plutôt bien. Par contre, je suis assez mauvais avec Blender, hein, donc je vous demande d'être indulgent, donc on va y aller. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici l'équivalent d'un sol, donc je vais lui dire qu'il sera un petit peu moins épais, ici. Et ensuite, je vais lui donner un peu plus de consistance, comme ça. Je vais changer son nom, rename. Je vais l'appeler Ground.
Là, c'est rigolo, mais quand tu fais ça toute la journée, je péterai sa gueule. Quoi.
Je suis sûr que je te manque. Mais je parle anglais pour que tu sois pas trop jetlagué.
Ouais, c'est sympa.
Donc là, vous faites un sol et ça sera notre sol, du coup. Parce que ground, ça veut dire sol en anglais, du coup. Une fois que j'ai fait ça, j'ai des propriétés que nous avons rajoutées au niveau Babylon.js, je ne sais pas si vous le voyez. Donc on a la possibilité d'activer le moteur de collision ici. Donc c'est une case à cocher. En fait, vous allez dire maintenant cet élément-là, lorsque je vais l'activer également sur la caméra, le moteur va tester pour vous si ça rentre dedans ou pas. Donc déjà, c'est un truc bien parce que c'est quand même casse-pied à faire sinon. Et puis on a des trucs pour générer de l'ombre, etc. Mais on ne va pas le voir ici. Donc j'active la collision éventuellement. Et j'ai des nouvelles propriétés également, puisque Blender gère certaines propriétés au niveau du moteur physique. Il va falloir lui définir le comportement de cet objet-là. Donc je vais dire que c'est un rigid body, que en fait la forme à associer à ce mesh, alors mesh est objet 3D pour ceux qui ne le savent pas, ça va être pas ce truc-là, mais plutôt une boîte. Voilà. Et comme c'est mon sol et qu'il va y avoir de la gravité, si je lui donne une masse, bah, le sol va se barrer et... On a l'air bien con, quoi. Donc on va lui mettre 0. Alors il faut savoir que par défaut, Blender ne met jamais 0. Je ne sais pas pourquoi. Il met 0.1.0.1. Donc nous, on considère que ça, c'est 0. Une fois que vous avez fait ça, bah, il va falloir ajouter de la couleur, peut-être, éventuellement. Donc dans les matériaux, ici. Je vais lui dire que je vais mettre du diffus. Ouais, je ne sais pas, pourquoi pas. Hop, voilà, marron. Je vais rajouter une lumière. Lampe, je vais lui mettre une hémisphérique qui représente en gros le soleil. Une fois que j'ai fait ça, je vais rajouter un petit cube. Il y a une pleine blague là, mais plus tard.
Pour après.
Je vais le rotater en bon français. Rotater se dit de rotater un objet. Et ensuite, qu'est-ce que je vais lui dire à ce cube? C'est... Non, on me dit pas ça. Houston. Allô ?
Tu n'étais pas à côté sur les matériaux, là ?
Ah, voilà. Alors, je vais lui dire à nouveau, est-ce que je vais activer la collision ? Donc ça, c'est uniquement pour moteur Babylon. C'est pas forcément le moteur physique. C'est-à-dire que la caméra passera pas à travers mon objet. Et ensuite, pour rajouter un petit peu de fun, je vais lui dire que ce coup-ci, il a une masse et que c'est bien une box. OK ? Donc je pourrais éventuellement lui mettre différents matériaux. Une fois que j'ai fait ça, je vais sauvegarder ma scène au cas où je me plante. Donc je vais le mettre sur le desktop, comme toute personne bien organisée. Et je vais l'appeler untitled.blend. Comme ça, je me souviendrai, ouais, c'est le truc physique, ça. Une fois que vous avez fait ça, il faut exporter vers d'autres formats de fichiers. Donc nous, on a fait un script en Python, qui s'occupe de parcourir finalement tout ce que vous avez actuellement à l'écran, la caméra, les lumières, les matériaux, est-ce que vous avez mis des textures, etc., et l'exporter dans notre format. Donc ben, je clique dessus, je vais l'appeler untitled.babylon, ça me plaît bien. Donc je me retrouve sur ici, et j'ai fait effectivement une petite sandbox. Alors heureusement, j'ai profité des API d'HTML5 pour le mettre en offline, donc ça continue de marcher. Et donc la technique consiste ensuite à drag and dropper. Et vous voyez, hop, j'ai mon objet qui est bien présent ici avec le sol. Et donc je commence à voir ma scène qui fonctionne. Donc là, je peux commencer à m'amuser. Alors moi, je vais vous montrer le max de ce que je sais faire en 3D. Alors pour impressionner en 3D, les gens me disent « Ouais, le cube, tout ça. » Alors je dis « Attends, moi je peux te mettre une tête de singe, si tu veux. » Et là, ça commence à impressionner normalement. Alors allez, où elle s'appelle Suzanne ? Pour ceux qui ne connaissent pas.
Il n'y a pas de Suzanne ?
Non, parce qu'on fait beaucoup de blagues pourries sur Suzanne. Après, les gens nous en veulent. Bon, Suzanne, voilà, je vais te cliquer dessus.
On sent que tu maîtrises à mort quand même.
Hein ? Voilà. Donc, on rajoute Suzanne ici. Et si j'exporte à nouveau le fichier. Toc. Du coup, c'était très intelligent de nommer n'importe comment les trucs. Et je reprends mon fichier en drag and drop. Parce qu'aussi, on a Suzanne. Donc voilà, bon, bah, à un bout d'un moment, je me lasse rapidement de tout ça. Donc je fais appel à un ami qui me dit « Laisse papa gérer ». Donc il passe son temps, lui, plutôt dans 3D Studio Max ou Blender, hein, en fonction de ses moyens financiers, tout simplement. Et en fait, il vous fait des trucs genre celle-là, par exemple. Donc vous faites « CTRL A », « Drag and Drop ». Et il va charger la scène et il dit « Ouais, bon, c'est
pareil.
C'est pareil que mon cube.
Ça va. »
Ils sont chiants, les designers, ils m'énervent à chaque fois. Et donc là, il y a un moteur de collision, donc je passe pas à travers les murs. Alors David insiste à chaque fois pour que je monte les escaliers. Apparemment, il a lutté sur cette partie-là.
Chaque fois que tu fais ça, j'ai un semi-orgasme. Ouais. Donc il faut.
Donc on a d'autres scènes. Il y en a une qui est. Alors celle-là, on n'a pas le droit de la montrer encore. C'est laquelle ? Comment ça s'appelle ? Le train. Alors le train, ça, ça fait kiffer plein de gens. Hop. Voilà, on a un petit train, donc c'est une attraction Disney qui a été refaite, et donc on l'a repris avec une caméra auto-animée, et nous on pourrait passer des heures là-dessus. Hein.
Ça peut vite filer la gerbe, c'est ça qui est pas mal. Ceux du premier rang en plus là.
Alors ça c'est la partie zéro code, donc déjà vous voyez avec un bon designer vous arrivez à ce genre de truc, déjà c'est plutôt sympa, on vous a pas mal mâché le travail. Bon, vous allez vouloir jouer avec le code, ce que je comprends. Donc comment fonctionne le projet ? Dans ces cas-là vous faites un projet web avec votre outil préféré. Vous rajoutez Babylon. NGS, c'est un framework qu'on a écrit pour gérer le touch sur toutes les plateformes. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a plusieurs spécifications différentes. Ensuite, il suffit d'avoir un canvas ici, que vous balancez en plein écran. Et ensuite, le code est extrêmement simple. Hein. Lorsque mon DOM est prêt, j'exécute cette fonction. Je commence par vérifier si je n'ai pas un vieux navigateur qui ne supporte pas WebGL. Et si j'ai la chance d'en avoir un, eh ben, j'initialise mon moteur et c'est une ligne de code pour pouvoir charger le fichier .babylon que j'ai drag and droppé tout à l'heure, qui va s'occuper de me retourner une scène. Et dans ces cas-là, ça met ce qu'on appelle l'attache contrôle, je vais vous le montrer. C'est-à-dire que vous avez vu, avec juste ces lignes de code-là, si je fais CTRL F5, je peux me déplacer comme dans un FPS, clavier-souris, sans avoir fait quoi que ce soit. Donc on a voulu directement coder des comportements sans que vous ayez à gérer tout ça. Donc on en a connu pas mal, donc on va voir ça ensemble. Donc comment ensuite, même si on a fait ça sur notre temps perso, comme Microsoft nous paye bien, on a dit on va quand même parler de leur techno à un moment donné, comment créer un projet pour le store ?
Ah oui.
Tu t'en fous en fait.
Moi c'était pour un manager HTML5.
Ouais. Donc vous créez un projet de type JavaScript. Alors, c'est store uniquement Windows 8.1, hein, puisque c'est IE 11 dont vous avez besoin. Vous créez une application blank. Vous n'êtes pas obligé de l'appeler App 16, hein, mais ça
marche avec 17 aussi.
Ça marche avec pas mal de numéros. Donc là, je me fous de ce qu'il est en train de faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je prends le code de ma partie web, vous voyez. Je vais récupérer les différentes assets. Donc là, la scène générée par mon designer préféré, le répertoire script, index. Et c'est tout ce dont j'ai besoin. Et là, je vais faire un drag and drop dans l'autre projet. Voilà. Et il faut savoir qu'un projet Windows Store commence par défaut sur default. Donc, je vais dire non, moi, c'est index. Et du coup, zéro changement de ligne de code. Et comme en fait, c'est IE11 dans les deux cas, vous avez le début d'une application Windows Store. Sauf que vous êtes en plein écran. Donc c'est assez sympa parce qu'on est un des premiers, si ce n'est les premiers, à supporter WebGL pour faire des jeux dans le store. N'hésitez pas à tester ça. Moi, j'en ai publié une sur le store qui est celle-ci. Hop, je vais la tuer. Donc on repart de zéro. Donc j'ai travaillé avec mon designer préféré qui m'a fait un petit splash screen, des petites assets sympathiques. Donc là, on peut se balader clavier-souris. J'ai rajouté le support dans les settings ici, la possibilité de se déplacer au touch. Donc là, on a fait une caméra, en fait, on suit le tracé de votre doigt, pareil, on le fait pour vous. Alors, si ça ne vous plaît pas, vous avez le code source, hein, donc ne nous saoulez pas non plus. Et on a la possibilité d'avoir des effets post-process, c'est-à-dire qu'un pixel shader tourne après coup, du sépia, et on peut également gérer l'anti-aliasing avec différents niveaux. Où là, j'ai mis un truc, en fait, hardware scaling automatique, c'est que là, je tourne sur une belle machine, mais quand je vais tourner ça sur un processeur ARM, il va peut-être se vautrer, donc je vais essayer de tuner automatiquement les performances pour adapter le framerate et baisser la qualité. Donc tout ça, c'est pareil, j'ai un article de blog qui parle de ça et vous pouvez récupérer le code source. Donc jusqu'à présent, on s'était plutôt bien marré là-dessus et on s'était dit, rendez-vous, non, c'est pas ça, on s'était dit on aimerait bien aller un cran plus loin. Et pour aller le cran plus loin, on avait ce genre de... Vous connaissez ça ? Ah, c'est un bon kiff, ça. Hein. C'est l'Oculus, on rêve depuis des années de la réalité virtuelle. Moi, depuis tout petit, je me souviens d'avoir joué à Exic en réalité virtuelle sur un salon de jeux vidéo et d'avoir vomi pendant 2 heures après. Ça commence à être vraiment pas mal, donc le casque. Le casque, normalement, fonctionne sur du natif. Et il y a eu des expérimentations qui ont été faites dans d'autres navigateurs, mais avec un système de plugin. Parce que comme il faut discuter en C++, C++ et JavaScript, on ne vous offre pas beaucoup de ponts par défaut pour le faire, à part faire effectivement un plugin dans le navigateur. Bon, déjà, quand ça paraissait C++, j'étais voir notre jeune stagiaire de troisième. Je lui dis, C++, je me souviens que tu maîtrises un petit peu. Oui. On lui dit, non, on ne voudrait pas un système de plugin, ça nous saoule un peu. Parce que du coup, on vise qu'un seul navigateur et notre philosophie avec Babylon.js, c'est de viser tous les navigateurs. Donc, on s'était dit, comme on a une caméra qui fonctionne à l'accéléromètre, finalement, ça ressemble un peu au concept d'un accéléromètre, quoi. Donc, on lui a dit, écoute, on a une super idée, c'est super simple. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas nous écrire un driver en C++ et tu vas remapper le comportement du casque sur un device orientation API et roule ma poule, ça marche.
Merci.
Comme ils sont super lents à coder, les développeurs C++, on a dû attendre 2 bonnes semaines avant d'avoir un truc, quoi. Mais on commence à avoir un truc qui marche. Alors, comment ça fonctionne? Il faut d'abord récupérer les informations du capteur. Donc, on a un driver qui s'occupe de renvoyer ça, alpha, beta, gamma, pour ceux qui connaissent sur les device orientation APIs. Et ensuite, il faut. Alors, on n'a pas fini, hein. Je devais finir ce week-end, mais je n'ai pas fini, mais je vais vous montrer un début de truc qui marche. Il faut avoir un multi-rendu, c'est-à-dire qu'il faut un rendu sur l'œil gauche, l'œil droit, prendre en compte l'écartement des yeux. Ah, je suis toujours pas d'accord.
Si t'es switché, mais tu dois être un duplicate, t'es pas un duplicate.
Et personne ne me dit rien, quoi. Voilà, puis c'est plus la bonne résolution. Vas-y, parle pendant ce temps-là. Non, tu veux pas?
Non. Non, c'est ta partie, là, je sais pas.
Et donc, ce qu'il faut faire, du coup, c'est faire un multi-rendu de caméra. Alors ça, du coup, moi, je suis un petit peu le mec qui a des idées, puis ensuite, je vais voir David. Je fais, David, il faudrait un multi-rendu de caméra.
Eric, il nous faudrait le driver, et
Ouais,
puis voilà.
driver. Et puis ensuite, toi, tu t'occupes d'assembler tout. Bon, effectivement, je n'ai pas fini. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait. Moi, j'ai fait un nouveau type de caméra que j'ai appelé de manière assez originale. Non, pas caméra. J'aime bien faire cette blague, caméra. Mais je l'ai appelé Oculus. Et je dérive de la Free Camera. Je rajoute le support ici du contrôleur Xbox. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le casque, au début, c'est super rigolo. Vous le mettez, vous tournez la tête gauche-droite. Puis, comment j'avance, en fait? Donc, le premier réflexe de tous les gens super marrants de les voir, ils commencent à marcher. Mais ça marche pas ton truc? Bah oui, mais j'en sais que tu es en train de marcher moi. Donc, on rajoute des Kinect en fait. Et on a une expérimentation de malade mental où on fait Iron Man avec la Kinect. Moi j'ai le vertige, j'ai vraiment eu le vertige dans le jeu. Donc, je vous déconseille l'expérience, même si c'est rigolo. Sauf si vous. Bon, peu importe. Donc là, j'ai commencé à faire des calculs qui est la distance entre les pupilles et tout, parce que c'est expliqué dans le SDK d'Oculus. Et ensuite, quand je reçois les événements en fait d'orientation envoyés par Eric depuis son driver, eh ben, je vais m'occuper de bouger tout simplement la caméra. Et de l'autre côté, je check ce qui va entrer comme input sur le joystick, et je vais m'occuper à la fois de tourner la tête et d'avancer. Okay? Ensuite, une fois que j'ai fait ça, il faut que je duplique ma caméra. Donc en fait, ce qu'on fait ici, c'est que on crée une deuxième caméra qui va être légèrement, comment dirais-je, écartée de la première. Et on va lui donner les mêmes propriétés que l'autre, etc. On va lui donner de la gravité, les mêmes post-process, etc. Et on la rajoute dans le gestion de caméra que David a fait.
Résultat des courses.
Résultat des courses. Pour que ça soit correctement fini, je préfère vous prévenir. Est-ce que vous connaissez l'Oculus? Il y a des lentilles à l'intérieur. Donc l'Oculus, c'est qu'un seul écran en fait, hein, qui est coupé en deux avec un système de lentilles. Donc normalement, il faut déformer ensuite le rendu 3D pour en faire comme s'il était projeté sur une pseudo-sphère, si vous voulez. Donc il faut faire un pixel shader pour ça. Et bon, moi, je suis une truffe en pixel shader, mais j'ai trouvé un endroit où il est. Donc pour l'instant, j'ai juste dupliqué mon rendu. Ok? Et là, du coup, si vous aviez la tête dedans, vous pourriez, hop, tourner la tête dedans. Oui.
Là, vous avez juste chopé la gerbe.
Ouais. Et donc, ouais, j'essayais de le mettre dedans. Donc, comme j'ai pas la vue, je fermais un œil et j'étais avec le joystick. Moi, j'étais tout seul sur l'open space. C'était vendredi soir, 22 h. Ma femme, qu'est-ce que tu branles? J'ai un Oculus sur la tête et tu veux pas savoir, chérie. Vraiment, je pense. Et voilà. Et voyez, vous regardez dans un endroit et ça avance. Donc cette solution, on est en train de la finaliser. Il nous reste le pixel shader pour transformer ça. C'est pas très compliqué, mais bon, j'étais un peu fatigué. Et ensuite, il faut signer le driver. Parce que pour l'instant, la machine, vous savez, sur Windows, vous n'avez pas le droit de faire un driver à vous et le passer aux copains et puis sniffer tout ce qu'il fait. Puis c'est rigolo, on fait les blagues habituelles de geek. Il faut uniquement que la machine soit en mode unsafe. Mm. Et donc là, il faudra qu'on signe le driver, qu'on termine 2-3 trucs. Hein on pourra le publier, on le publiera au même endroit que d'habitude pour que vous puissiez jouer avec. Et l'avantage, c'est que ça marchera partout. Alors, on a découvert un truc super marrant. C'est que nous, on considère par exemple que par défaut, le nord est dans un certain endroit et quand on tourne gauche-droite, bah, nous, ça va être alpha, bêta et gamma. Hein. Bah, je teste dans Chrome, ils se sont dit non, nous, on va faire plutôt comme ça. C'est super rigolo en fait, parce que dans l'aspect W3C, comme ils n'ont pas précisé, alors je sais pas quel. Je pense que c'est plutôt nous, comme on arrive les derniers, qu'on a fait différents d'eux, mais je préfère l'histoire dans l'autre sens, et puis etc. Et donc, il va falloir régler ce problème pour que universel l'ensemble. Donc là, on vous a présenté finalement la création de zéro, l'utilisation d'assets, mais on ne vous a pas présenté finalement comment coder un jeu. Et ça va être le rôle de Mister Catu.
Très bien. Oui. Alors, on va partir de zéro. Okay. Je me suis préparé juste quelques petites... accélérateurs, puisqu'on n'a qu'une vingtaine de minutes. Donc l'idée, c'est de partir sur un projet. Alors vous voyez, je prends C#, ça peut faire un peu bizarre, mais c'est pour avoir en fait un projet ASP.NET qui va héberger mon site et qui va me permettre d'avoir deux IS Express locales et qui va le lancer. On ne va pas faire de C#, mais on a juste une enveloppe qui va instancier deux IS Express. Alors, donc là, on fait un projet web vide, bien sûr. On attend que ça se crée.
Attends, parce que moi, je n'ai pas vu.
Salut.
Ouais. N'hésite pas à t'acheter un SSD.
Oh putain de disque de merde. Je pense qu'il a un jet lag aussi mon disque. C'est un disque américain, du coup il sait pas, il est à l'envers. C'est du C#, hein. Ouais, déjà. Mais j'ai quoi là qui se passe? Il est en train de calculer mes impôts ou quoi?
C'est la machine que tu utilises à Coding for Fun?
Ouais. Mais là, on s'en fout, Coding for Fun, ça peut. Mais j'ai fait bouton droit, incroyable.
Il y a ma machine, tu n'en mets.
Non, je vais couper le réseau. Je sens bien que le réseau, là, c'est pas sa vie, en fait. Tiens, dégage. Voilà. Je pense que ça doit le stresser. Ouais, non. Ok, admettons. Donc, on a un projet, en fait, et dans ce projet-là, ce qu'il va falloir faire, c'est. Je vais mettre du JavaScript. Je me suis préparé la version de départ. Donc, j'ai besoin de quelques assets, etc. pour mon petit projet. Non, mais je me suis trompé de ce que je voulais faire, en fait. Comme c'était super rapide, du coup, je recommence. Donc, je dis de n'importe quoi. Je voulais faire un projet de type Windows Store. C'est ça que je voulais faire. Je ne sais pas où j'étais là. Donc, je vais drag and dropper tout ça, parce que je voulais vraiment vous montrer justement l'expérience jusqu'au bout. Le site web, ce que je viens de faire là, ça aurait tout à fait marché. Mais pour le coup, j'ai envie de m'injecter dans une vraie application du store pour pouvoir après la mettre sur le store et gagner de l'argent avec. Ouais, tu vois, c'était rapide, du coup, il n'y a pas de problème. Donc, je me retrouve avec le template de base de JavaScript que vous pouvez utiliser pour faire vos propres projets. Et je disais donc, je vais glisser à l'intérieur ici mes assets. Alors.
C'est la même chose que j'ai montré, mais en moins vite, quoi, ça.
Ouais. Vous voyez que j'ai deux références en attendant, Babylon.js donc pour le moteur 3D. Et je vous disais qu'on s'appuie sur un moteur physique externe qui s'appelle Canon.js, que je drag and drop également.
Où est le problème?
Moi, j'en vois pas. Alors, il paraît que des fois, si je lève la lime, ça va plus vite. Ou pas.
Et puis les snippets, j'imagine, tu les as...
Eh oui, ils sont tous registrés et tout. Donc.
Tu veux que je te prépare la mienne?
Sinon... Ah, mais non, mais en fait, il posait une question. On est trop con. Ok, donc voilà, ce qui s'est passé, j'ai mis mes images, etc. Tu peux rester des heures. Mais c'est de la merde, qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, ce que j'ai préparé, c'est que j'avais pris des assets pour faire des jolis petits logos, etc. Là, si je n'ai rien changé, j'ai juste drag and drop mes ressources. La seule chose que j'aime bien, moi, c'est avoir une application, vous voyez, avec déjà les icônes, etc. Elle est prête à fonctionner. Je m'étais noté ici, parce que je suis un garçon très prévoyant, le code couleur que je vais utiliser pour mon background. Alors, certains disent que je suis carrément con, mais moi, j'aime bien quand c'est propre. Voilà. Là, c'est propre. Le splash screen... background color ici. Du coup, quand je lance mon application, je vais vous faire une jolie application, il y a mon logo intégré. Alors, vous n'êtes pas venu pour me voir me branler sur les codes couleurs, mais moi, je trouve ça plutôt sympa. Alors, on est en JavaScript. Donc, qu'est-ce qui se passe en JavaScript? On a Win.js qui s'initialise. On a toute la phase de construction de la fenêtre qui se fait. Et ici, en fait, on a une promise qui va me permettre après de prendre la main dans une méthode anonyme. Et là, je fais ce que je veux. Okay, la chose que je vais devoir faire ici et qui est très importante, c'est de venir dans mon projet default.html et de me créer un canvas dans lequel je vais faire mon dessin. Okay. Donc ce canvas, on va l'appeler, je pense, canvas. Et il va être la zone de travail, en fait, la zone de rendu de ma 3D. Je vais juste également glisser-déposer ici, parce que je vais en avoir besoin forcément, Babylon et Canon.js. Donc j'ai mes références qui sont faites. Et je vais juste prendre soin dans le CSS de dire que le canvas, ici, donc, hop, on recommence. Le canvas, disais-je, va avoir une largeur et une hauteur de 100%. Il va occuper tout l'espace de la fenêtre. Alors, libre à vous si vous voulez après de mettre des interfaces, des éléments. Alors, 0% c'est particulier, mais.
C'est pas les mêmes unités aux US.
Ah, c'est des 11 là. Bon, à partir de là, ce que je vais pouvoir faire, c'est revenir ici et commencer mon boulot. Donc la première chose que je vais faire, alors si j'étais sur une page web, je devrais demander à Babylon si WebGL est supporté. Là, je suis dans une application Windows 8.1, donc je sais que je tourne sur IE 11, donc il n'y a pas de test à faire, on est déjà en environnement normal. Ce que je vais faire, c'est récupérer mon canvas, d'accord ? Donc je demande au document de me donner le canvas en allant chercher par son nom. Et le nom, donc c'est canvas, on a dit ici, tac. À partir de là, je vais créer mon engine. Donc c'est parti, égal new, c'est ce qu'on disait avec David, babylon.engine ici. Elle a besoin pour fonctionner du canvas et on peut mettre true ou false, on s'en fout, IE11 ne le gère pas, donc il n'y aura pas de... Sachez que, non je ne peux pas vous le dire, mais bientôt on va le gérer.
Mais tu peux plus.
Ah ouais, je l'ai dit en fait. C'est filmé ou pas?
Non,
c'est bon. Putain, je viens de m'acheter une maison, on fait chier quoi. Donc, pour faire la scène, on l'a dit avec David, c'est le conteneur, évidemment, là où tout va se passer. Donc, on va faire cette fois-ci un new Babylon.scène. Et donc, la scène, en fait, elle n'a pas besoin de grand-chose pour fonctionner. Elle a juste besoin de savoir sur quel moteur elle peut fonctionner. Rien ne vous empêche d'avoir plusieurs canvas, si vous voulez, chacun a sa propre zone de rendu. Vous pouvez même les mettre les uns sur les autres, puisqu'on fait de l'empilement de canvas, et ça fonctionnera. À partir de là, la scène, en fait, elle va avoir besoin, si vous voulez, d'une lumière et une caméra. D'accord ? Donc, on va gérer, en fait, ici, une caméra. Que l'on va appeler caméra. Et donc, tout à l'heure, David vous a fait une free caméra. C'est là vraiment la caméra du first game shooter où on se déplace avec clavier souris. Moi, je vais faire une arc rotate. L'objectif d'une arc rotate caméra, c'est d'avoir un objet central et de tourner autour. Okay, comme là, je veux faire un jeu. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de vous expliquer ce qu'on voulait faire dans ce jeu-là. Je veux faire un Tetris en 3D. D'accord ? Donc, avec des pièces qui tombent, il faut les déplacer, si jamais il faut les empiler, etc. Donc, du coup, l'idée, on va avoir un plateau de jeu et une arc rotate caméra qui tourne autour, c'est bien. L'utilisateur peut tourner sans pour autant aller se balader et voir derrière le décor. Donc, ça, c'est très bien. Donc, on va faire une Babylon.arcrotate caméra. OK ? Alors, l'arc rotate caméra, elle a besoin d'avoir un nom. Donc, on va mettre caméra. On va faire plaisir à David. On va l'appeler Mira. Et après, elle a deux angles. OK ? Quand on est sur une sphère, il faut deux angles. Un sur l'axe des X et l'autre sur l'axe des Z, par exemple, pour savoir où est-ce qu'on est positionné. Bon, ben là, on va dire qu'on ne va pas s'embêter trop longtemps, on va se mettre en 0,0, au pire, on verra si on n'est pas au bon endroit. Un rayon, d'accord ? Quelle est la taille de la sphère sur laquelle se déplace ma caméra ? Donc là, c'est plutôt 10. Et également, autour de quoi elle tourne ? Okay ? Autour de quelles coordonnées ? Quel est le centre de la sphère ? Donc ici, on va lui dire, on va essayer de gagner un peu de place à l'écran, voilà. Que l'on va utiliser un objet qui est généré pour vous qui s'appelle le vector 3 qui va représenter tout ce qui est coordonnées spatiales. Donc là, on va tourner autour du 0. Bon, vous auriez pu faire un new Babylon vector 3 de 0, 0, 0. Ça marche aussi. Là, on vous le raccourcit. Okay, et c'est cette caméra va être créée dans la scène. Okay. Ensuite, on va faire une lumière. D'accord. Qui va donc être. Alors, il y a plusieurs types de lumière. David tout à l'heure a utilisé une hémisphérique qui est un peu comme le soleil. Et ici, nous, on va plutôt faire appel à une lumière directionnelle pour que vous ayez un autre exemple. Ben, une lumière directionnelle, elle vient d'une direction, elle va vers une autre et à l'infini des deux côtés, si vous voulez. Okay. Donc, c'est juste une lumière qui vient dans un sens. Là, on va par exemple dire que la lumière, on va l'appeler dire, ça ira très bien, directional light, sa direction, elle va être basée sur un vecteur. Donc, ici, toujours pareil, vecteur 3. Et là, j'aurai de mes pompes, on a mis 0,2. Donc, on est en main gauche, super important. Il faut que vous regardiez votre main gauche. X sur le pouce, Y sur l'index et Z sur le majeur. Donc, je m'adapte pour vous. Donc, vous êtes comme ça. Donc, 0,2, ça veut dire qu'on va se décaler un peu sur la droite. Okay, donc, c'est une lumière qui va se tirer un peu vers là. pas trop. Là, je vais la mettre en moins 1, donc elle va descendre. Ok. Ouais, du coup, il faut mettre un point. Et on ne va pas mettre de direction sur Z. Alors, cette lumière, c'est pareil, elle va être attachée à la scène. Ok. Et là, on a donc défini des acteurs. David parlait tout à l'heure de cinéma. Donc, on a mis une caméra, on a mis une lumière pour éclairer tout ça. Et on va, à partir de là, demander à la caméra de prendre le contrôle des événements pour nous. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle va s'attacher typiquement au touch, typiquement au mouse down, sur le canvas, et elle va y réagir selon son fonctionnement. Là, c'est une arc rotate, donc quand je vais bouger la souris, eh bien, elle va rotater sur l'axe et vous n'aurez rien à faire. Donc, rotater étant bien sûr pas français, on va demander à la caméra de s'attacher au canvas.
Il te reste 5 minutes.
Non. On finit à combien ? Fini l'écart ?
Ouais.
Ah ouais, mais il me reste 5 minutes. Bah, d'accord. On va passer en mode turbo berserk. Alors, je voulais juste vous montrer d'autres choses avant quand même de passer. La chose dont on a besoin ici, c'est d'avoir une render loop, donc pour avoir le plus souvent possible le render qui se fait. Donc on va demander à l'engine de faire tourner cette render loop pour nous. Et la render loop, l'avantage, c'est que c'est une fonction anonyme que vous allez pouvoir fournir ici. Et on va pouvoir dire tout simplement qu'on va juste demander à la scène de faire du render. Ok ? Je vais ajouter rapidement en fait une skybox. Voilà, vous allez voir, je vais être un magicien. J'adore ça. Tchac. J'ai fait une skybox. Alors, là, j'ai codé un peu vite. Vous n'avez peut-être pas vu. Je me déplace à vitesse à la lumière à ce moment-là. Du coup, il faut. Alors, qu'est-ce que je fais en fait ? J'ai créé une box qui s'appelle skybox, qui fait une taille de 100 par 100 par 100. Ok. Je lui donne un matériau. Ce matériau, il fait du backface curling, c'est-à-dire qu'il va afficher les faces internes. Parce qu'en fait, on va se mettre dans une grande boîte, à l'intérieur de la boîte, et on va texturer l'intérieur de chacune des faces de la boîte avec des textures. Les textures, ce sont les suivantes que j'ai ici dans Skybox. On va aller voir le répertoire directement dans le navigateur, vous voyez. Je vais texturer chacune des choses suivantes. On va essayer de vous zoomer ça un peu plus. Sur chacune des faces. Okay. Et donc, on va être à l'intérieur de la boîte. Et quand on va bouger le regard, eh bien, en fait, on va voir le ciel. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on va avoir l'impression que c'est sphérique, alors qu'on est dans une boîte. Ouais, ça, ça calme. Déjà, la notion mathématique derrière ça est impressionnante. On fait un objet qui est géré pour vous, qui s'appelle une cube texture. C'est une texture qui n'a pas une image, mais qui en a 6. Okay. C'est géré par la carte 3D pour vous. C'est assez pénible à faire. Là, vous avez juste une ligne à faire. Vous lui dites où est-ce qu'elle doit aller chercher chacune des faces. Vous allez également donner une couleur par défaut. Donc là, je la mets en noir puisque je ne veux que l'éclairage qui est donné par la texture. Et j'attache ça à ma skybox. Okay. Donc là, bon, j'ai certainement oublié quelque chose. Voilà, la preuve, l'image. Ah non, c'est, ça marche. Alors, vous voyez ce qui se passe ? Je tourne la tête avec ma souris ou avec le touch, ici, et on a vraiment l'impression qu'on est dans une sphère. Alors qu'en fait, je vous ai fait exprès de vous casser un peu la texture ici, et vous voyez, là, vous sentez peut-être l'effet du cube. En fait, il y a deux plans qui se rejoignent à cet endroit-là. Et donc la texture ne jointe pas parfaitement pour que vous puissiez voir l'effet.
Ouais, j'ai problème de papier peint comme ça chez moi aussi.
Du coup, tu n'as pas l'impression que c'est une sphère, attends, chez moi. Ouais. Je comprends. Alors, donc là, et vous l'avez vu, c'était une application. On va également s'amuser à rajouter le playground. Donc le playground, qu'est-ce que c'est ici ? C'est un sol. Okay, dans lequel je vais faire une certaine taille pour le zoomer. Je vais également lui donner un matériau, une texture qui s'appelle grand.png. Je vais penser à déclarer ici mon objet grand parce que j'en aurai besoin après. Donc on est toujours dans une application, mais vous imaginez bien sûr que ça fonctionnerait de la même manière. Ouais, voilà. Donc quand on le lance et que ça redémarre, ce n'est pas bon signe. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah oui, grand level. Le grand level, c'est le niveau où on veut mettre le terrain. On va dire qu'on va le mettre à moins 5, sachant que le 0, hein, sinon on va dire que c'est notre horizon. Je veux le mettre un peu plus bas pour justement avoir les pièces au-dessus. Okay. Voilà.
Okay. Ouais, ça claque.
Ça claque, hein. Ouais. Superbe texture. Donc, je vais un peu vite sur la molette. Ouais, donc là, je suis dessous. C'est notre zone de terrain, notre zone de jeu. Ok, il me reste 3 minutes.
Là, tu peux déborder un peu.
Je vais déborder un poil et puis je vais directement sauter à la solution par la suite. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est que quand je vais faire mes objets, mes formes pour mon Tetris.
Yes.
Yes. Je refais, define shapes. Voilà, en fait ici, je vais avoir une fonction qui va créer des boîtes. Le Tetris, c'est pas compliqué. Il y a 4 carrés, 2, 3, enfin, 3 comme ça, le L, etc. En fait, c'est que des boîtes hein, que je vais texturer et qu'on a associées ensemble. Après avoir fait ça, je vais, pour gagner du temps, directement aller dans ma version ici définitive. Donc, c'est la version accélérée dans le temps. Non, je m'en fous. Ouais, si tu veux.
Tu communiques beaucoup avec ta machine.
Genre, oui. Okay. Mais là, actuellement, on est un peu en froid. Allez, moi. Ouais. Elle s'est pris le mur deux fois déjà aujourd'hui, donc j'ai l'impression qu'elle me le fait payer quelque part.
C'est peut-être du moteur à collision. Ouais.
Alors, donc, ce que je vous disais ici, en fait, c'est que j'ai la même chose qui a été faite en mode accéléré. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai géré les événements clic pour dire qu'un utilisateur va cliquer sur des objets que j'ai rajoutés ici, qui sont donc left, right, up, down. J'ai quatre flèches en fait sur mon écran. Quand je clique dessus, je vais bouger des objets. La deuxième chose que j'ai rajoutée, en fait, c'est que mon objet ici, scène.render dans ma render loop, elle appelle également un check game over. Que fait check game over? Il est ici. Il va parcourir tous les objets de la scène. Et si jamais l'objet il a une propriété isRoot, on va y revenir, et qu'il est en dessous de moins 8, donc je vous rappelle que le sol, on l'a mis à moins 5, c'est-à-dire que la pièce, elle est sortie de la zone, elle est donc à moins 8, plus bas que le sol, eh bien, j'ai perdu. OK ? C'est pas plus compliqué que ça. Après, je m'amuse avec des éléments pour mettre du game over. La chose également que je fais, j'ai créé une fonction ici qui s'appelle step, qui va appeler la fonction clone random shape. Que fait clone random shape ? Vous vous souvenez les shapes dont je vous ai parlé tout à l'heure, où je crée les traits, les boîtes, etc. Eh bien, je vais en cloner une au hasard de ces objets, la faire apparaître sur la scène. D'accord ? Je vais lancer un petit timer, que je vais vous montrer ici, qui est là, pardon. Ce petit timer, ici, il s'appelle Step. Step, donc, après avoir cloné ici, je fais un petit effet avec les particules, je le laisse de côté pour le moment. Je joue un petit son avec un objet ici qui s'appelle Effect Player, qui est un sound qui est juste dans ma page. Et au bout d'un certain temps, quand je vais créer la pièce suivante, la pièce précédente, je vais lui ajouter de la physique. Donc elle va tomber. Donc en gros, vous avez l'intervalle, je crois, qui est de 5 secondes, je ne sais plus. Je crée une pièce, je ne fais rien. Vous pouvez la bouger avec les contrôles. Au bout de 5 secondes, j'en crée une autre et je mets la physique sur la première. Donc elle tombe. Okay ? Et vous avez perdu si jamais une de vos pièces sort du playground. Pas plus que ça. Résultat, en image.
Non, il y a bien des gars qui sont max de thunes avec Floppy Bear là.
Ouais, c'est parti. Voilà. Donc là, j'ai les quatre boîtes là. Donc là, il y en a une autre qui est apparue, donc il faut que je la sorte, je la mettre à côté. Vous voyez, elle est transparente. Après, ben, j'en mets une autre ici.
Il est super content de son jeu, vous me direz. Mais...
Voilà, bon là, non, ça va. Bon, après, le mec est con, il fait ça, tu vois, typiquement. Ah oh ! Eh bien, il a perdu. Je suis sûr qu'on peut faire de la thune avec. Hein. Donc, allez, il m'aurait fallu peut-être 10 minutes de plus pour vous raconter toute la suite. En quelques instants, j'ai un jeu complet qui est packagé pour le web. Je peux le pusher sur le store. Il y a un petit moteur physique. Du coup, ben, ça peut être intéressant. Je peux passer des heures à jouer avec. Hein. J'ai des témoins. Et on peut réduire entre chaque niveau le nombre de temps que vous avez pour bouger une pièce par rapport à la précédente. Et puis surtout, comme il y a un moteur physique et que le moteur physique, vous allez le voir, je vous fais une petite démonstration rapido ici. Si jamais je laisse deux pièces au même endroit physiquement, ben, dans la vraie vie, c'est pas possible. Et dans le jeu, vous allez voir ce qui va se passer. Là, il me met un petit warning. Et puis, si jamais je fais rien, il va les éjecter les uns des autres. Voilà. Donc là, c'est pas grave. Il n'y en avait pas trop. Mais l'objectif, c'est de vraiment jouer et de bouger les pièces pour pas qu'elles giclent finalement et qu'elles sortent de la zone de jeu.
Alors, on travaille sur des jeux légèrement plus évolués avec des vrais éditeurs de jeux. On a une conférence qui aura lieu le 13 mars dans les locaux de Microsoft qui est gratuite.
Oui.
On vous paye même la bouffe le midi et tout. Alors, on sait qu'il y a des développeurs, pizza, donuts, etc. On fera la session en une heure. On va essayer de rajouter des nouveaux trucs. On aura peut-être une scène qu'on n'a pas pu vous montrer aujourd'hui là-bas. Il y aura Mozilla qui sera présent. Il y aura des gens qui font du FreeJS. Il y aura pas mal de trucs autour de la 3D. Il y aura Ubisoft qui sera là à la fin pour discuter avec nous. Peut-être qu'on fera une démonstration des projets en cours. Sinon, ce sera un peu plus tard.
Ceci, je le mettrai sur mon blog, comme ça vous pourrez récupérer le jeu. Vous voyez qu'il n'y a vraiment que le code que je vous ai montré là, puisque le moteur physique est géré pour vous. Il y a juste la logique du jeu. Donc vous pourrez vous en emparer, puis jouer avec, et effectivement récupérer également nos slides et tout le contenu de cette session.
Il faut respecter ce qu'a dit.
Merci.
Merci. Merci.